Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 15h à Damas.
RFI midi.
Et 13h à Paris, la première partie des RFI Midi, c'est avec vous, Juliette Pietraszewski, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
Et on commence donc avec le journal à la une. En Syrie, la minorité chrétienne proteste ce mardi.
Après l'incendie d'un sapin de Noël près de Hama, dans le centre du pays, on reviendra sur cette manifestation dès le début de ce journal et sur les minorités, globalement, en Syrie et sur leur avenir, avec notre invité Thomas Pierret, chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, spécialiste de la Syrie. Dans ce journal également, un navire russe a coulé en mer Méditerranée. Les problèmes continuent pour la marine de Moscou, qui avait déjà perdu deux pétroliers et un autre navire il y a quelques semaines. En France, premier jour après l'annonce du gouvernement Bayrou, avec des passations de pouvoir aujourd'hui, et deux anciens premiers ministres, Manuel Valls aux Outre-mer et Elisabeth Borne à l'éducation nationale. La nomination de Gérald Darmanin à la justice fait également couler beaucoup d'encre, notamment chez les militants féministes, vous l'entendrez. Et puis en Corée du Sud, après la destitution du président il y a 10 jours, c'est le premier ministre président par intérim qui est menacé de destitution.
En Syrie, plusieurs manifestations dans des quartiers chrétiens de Damas aujourd'hui.
Une protestation contre l'incendie d'un sapin de Noël près de Hama, dans le centre de la Syrie, par des combattants ex-rebelles. Plus de 2 semaines après la chute de Bachar el-Assad, après une offensive menée par une coalition de rebelles et notamment composée du groupe Hayat Tahrir al-Sham, il y a donc cette question. Est-ce un mauvais signal pour les minorités religieuses en Syrie? Des centaines de chrétiens ont en tout cas manifesté dans la capitale pour défendre leurs droits, Julien Chavanne.
Les images ont enflammé les réseaux sociaux. Sur un rond-point de Souk al-Abiya, une ville à majorité chrétienne orthodoxe près de Hama, le grand sapin de Noël est incendié par des combattants cagoulés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces hommes étaient des étrangers issus du groupe djihadiste Ansar al-Tawi. Quelques heures plus tard, des centaines de chrétiens descendent dans les rues de Damas. « Nous sacrifierons nos âmes pour notre croix », crient les manifestants, inquiets de voir leur liberté religieuse menacée. 2 semaines après la prise du pouvoir par une coalition menée par les islamistes du Hayat Tahrir al-Sham. Les hommes du HTC ont d'ailleurs vite réagi. Un responsable religieux du groupe islamiste est venu s'adresser aux habitants de Souk al-Abiya avec une promesse. Les coupables seront punis, le sapin remis en état. En quête de respectabilité, le nouveau pouvoir veut prouver qu'il ne laissera passer aucun dérapage.
Julien Chavanne a noté que notre invité tout à l'heure sera Thomas Pierret, chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, spécialiste de la Syrie et auteur du livre « Baas et Islam en Syrie ». On s'intéressera aux minorités syriennes. Toujours en Syrie, le journaliste américain Austin Tice, disparu depuis 2012, est vivant. C'est ce que croit en tout cas l'ONG Hostage Aid Worldwide, qui a fait cette déclaration aujourd'hui à Damas. L'organisme assure disposer de données pour croire le journaliste en vie. La Syrie, qui est aussi au centre de l'attention pour beaucoup de pays, notamment la Turquie. Selon le ministre turc de l'Intérieur, plus de 25 000 réfugiés syriens ont traversé la frontière turque pour rentrer dans leur pays au cours des 15 derniers jours. Les autorités turques avaient déjà fait état de plusieurs milliers de retours, les 4 jours ayant suivi la chute de Bachar el-Assad. Toujours au Proche-Orient, les avancées pour un accord sur les otages à Gaza, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec prudence. Israël souhaite en effet que les otages retenus dans la bande de Gaza depuis octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas soient libérés. C'est l'une des conditions israéliennes pour un cessez-le-feu, à l'heure où les négociations au Qatar ont encore eu lieu la semaine dernière entre Israël et le Hamas avec Doha et l'Égypte. Les problèmes ne cessent de s'accumuler pour la marine russe. Un cargo russe a coulé en Méditerranée à la suite d'une explosion. Le 15 décembre dernier, c'était 2 pétroliers russes qui s'échouaient dans le détroit de Kerch qui sépare la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée. En cause, une tempête provoquant une marée noire en mer Noire. Quelques jours plus tard, c'est un autre navire russe, le Sparta, qui semblait se rendre à la base militaire de Tartous en Syrie, qui s'est retrouvé en grande difficulté au large de la Bretagne, à l'extrême ouest de la France. La nuit dernière, c'est donc le cargo Ursa Major qui a coulé dans la Méditerranée entre l'Espagne et l'Algérie. On y revient avec Romain Le Maresquier.
14 marins secourus et 2 portés disparus. Voilà le bilan suite au naufrage du cargo Ursa Major qui a coulé la nuit dernière au large de l'Espagne et de l'Algérie. Un navire qui appartient au Boron Logistics, une société qui dépend du ministère russe de la Défense et qui est sous sanction internationale. Selon cette entreprise, ce bateau se rendait à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe, après avoir quitté le port de Saint-Pétersbourg le 11 décembre dernier. C'est une explosion dans la salle des machines qui a provoqué la perte du navire. Un bateau de secours espagnol ainsi qu'un autre cargo russe, le Sparta, qui suivait l'Ursa Major, sont intervenus et ont pu sauver 14 membres de l'équipage. Mais 2 marins sont tout de même portés disparus selon le ministère russe des Affaires étrangères. D'après Moscou, ce cargo transportait des grues de 380 tonnes chacune à destination du port de Vladivostok. Mais selon des experts, ce bateau pourrait aussi faire partie d'une flottille de navires logistiques russes de la flotte du Nord qui aurait été envoyée en Méditerranée afin d'évacuer les matériels sensibles stockés dans les bases russes en Syrie. Des rumeurs que n'a pas souhaité pour l'instant commenter l'opérateur et propriétaire du navire.
Romain Lemaresquier est sur le sol russe, un citoyen américain condamné par un tribunal à 15 ans de prison pour espionnage. Son nom, Jen Spector. Le procès s'était jusque-là déroulé à huis clos et très peu de détails ont filtré sur les accusations. Il va purger sa peine dans une colonie pénitentiaire à régime strict, selon le verdict rapporté par une agence russe. Il a également reçu une amende de 14 millions de roubles, soit environ 134 000 euros. Jen Spector avait déjà été condamné en septembre 2022 à 3 ans et demi de prison pour corruption dans une affaire qui concernait une ancienne assistante de l'ex-vice-premier ministre russe. En Moldavie, la présidente Maia Sandu investit pour un second mandat aujourd'hui. Elle a salué le choix pro-européen fait par les électeurs, malgré les pressions, dit-elle, après un scrutin marqué par des accusations d'ingérence de Moscou dans l'ex-république soviétique. Maia Sandu a remporté début novembre le second tour de la présidentielle avec 55,33% des voix contre 44,67% pour Alexander Stoyanoglu, son adversaire soutenu par les socialistes pro-russes. Pour rappel, la Moldavie est située entre la Roumanie, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, et l'Ukraine actuellement en guerre. En France, le gouvernement de François Bayrou est désormais connu. Plusieurs passations de pouvoir ont eu lieu ce matin, notamment celle d'Elisabeth Borne qui occupe désormais le ministère de l'Éducation nationale. Manuel Valls est lui aux Outre-mer. Ça fait 2 anciens premiers ministres de retour dans ce gouvernement. Plus globalement, pour Denis Gravouille, membre du bureau confédéral du syndicat CGT, le gouvernement qui vient d'être nommé est dans la main du Rassemblement national. Écoutez.
C'est encore un gouvernement qui est dans la main du Rassemblement national, alors que la majorité des électeurs se sont prononcés pour un front républicain contre le RN au mois de juin et juillet. Et c'est quand même le RN qui fait la loi. Un monsieur Bayrou, soi-disant centriste, qui va être encore en train de manger dans la main de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Donc c'est déjà très inquiétant en soi. Et ensuite, on voit quand on voit la composition, Bruno Retailleau, Manuel Valls, etc. C'est un gouvernement plus qu'à droite.
Voilà pour cette réaction de Denis Gravouille, membre du bureau confédéral du syndicat CGT. Et dans la liste des entrants qui ont déjà connu un gouvernement, il y a aussi Gérald Darmanin. Il s'occupera de la justice. Une nomination qui provoque de vives réactions, notamment au sein des organisations féministes. Écoutez la réaction de Constance Villanova, militante féministe.
Une semaine après le verdict du procès Mazan, je trouve que symboliquement, c'est une insulte envers les femmes que de nommer Gérald Darmanin à la justice, une personne qui a été mise en cause dans des affaires de violences sexistes et sexuelles, même s'il y a eu un non-lieu. Quand on a lancé des collectifs, quand il y a eu des appels féministes, il n'a jamais répondu présent non plus. Et puis surtout là, on arrive à la fin de l'année, on est au 128e féminicide en France. La justice ne fait pas son boulot, le ministère de la Justice ne fait pas son travail à ce sujet-là. Et je ne pense pas que Gérald Darmanin soit compétent pour les droits des femmes non plus. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Déjà, à l'intérieur, c'était très compliqué pour les manifestations et pour le militantisme en général. Là, je pense que ça va être d'autant plus compliqué, surtout que vraiment, j'insiste sur la temporalité et le calendrier. Une semaine après le procès Pellico, je trouve que c'est vraiment, vraiment compliqué d'accepter cette décision en tant que militante.
Constance Villanova, militante féministe, interrogée par Olivier Sherman. Et les réactions se multiplient depuis l'annonce l'annonce du nouveau gouvernement avec la menace de censure au Parti socialiste notamment. Aucune des conditions n'a été respectée par François Bayrou pour établir un pacte de non-censure entre le Premier ministre et le Parti socialiste. Voilà donc les propos d'Olivier Faure, premier secrétaire du PS. En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement local est lui tombé. C'est la démission d'un membre du gouvernement qui a entraîné cette instabilité sur fond de désaccord sur le financement de la reconstruction du territoire. Territoire dévasté par l'insurrection débutée le 13 mai dernier à la suite de la réforme électorale engagée unilatéralement par l'État. À Nouméa, les explications de Charlotte Manvi.
C'est le départ du parti non indépendantiste Calédonie Ensemble qui a provoqué la chute du gouvernement. La formation de centre-droit reproche au président l'indépendantiste Louis Mapou de ne pas suffisamment se battre pour obtenir un financement de l'État afin de reconstruire le territoire. Les émeutes qui ont débuté en mai ont en effet causé plus de 2 milliards d'euros de dégâts et toutes les caisses sont vides. Pour reconstruire le pays, le gouvernement de Louis Mapou a donc accepté l'aide de l'État, seulement voilà, celle-ci se fera sous forme de prêts ou d'avances remboursables. Inacceptable pour Calédonie Ensemble, qui a donc décidé de démissionner, entraînant de facto la chute du gouvernement, les textes prévoyant que l'exécutif collégial représente exactement les équilibres au Congrès, l'Assemblée délibérante du territoire. En attendant une élection qui aura lieu dans les plus brefs délais, a indiqué mardi soir le Congrès, l'indépendantiste Louis Mapou, à la tête du gouvernement depuis 2021, expédie les affaires courantes. Il était le premier président indépendantiste du territoire. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
En Corée du Sud, la crise politique continue après la destitution du président il y a 10 jours. C'est le premier ministre Han Duck-soo, président par intérim, qui est à son tour menacé de destitution. Pour en parler avec nous, Carlotta Morteo est dans le studio. Bonjour.
Bonjour.
Le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, reproche en fait au président par intérim de refuser l'ouverture d'enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur les actes du président déchu.
Oui, en échange de sa confiance, l'opposition avait demandé 2 lois. Visant à créer 2 commissions d'enquête spéciales, l'une sur la tentative ratée du président Yoon d'imposer la loi martiale et de museler le Parlement en y envoyant l'armée, l'autre sur des accusations de corruption contre son épouse. Mais lors du Conseil des ministres aujourd'hui, M. Han a refusé, expliquant que de telles lois devaient faire l'objet d'un consensus entre partis. L'intention de M. Han, je cite, est visiblement de faire traîner le processus et de maintenir l'état d'insurrection, a déclaré le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Opposition qui pourrait sans difficulté destituer le Premier ministre puisqu'elle a la majorité au Parlement, si ce n'est que la formation conservatrice au pouvoir lui conteste qu'il faut une majorité des 2/3 pour destituer un président par intérim. Or, M. Han Duck-soo a la double casquette, il y a donc un problème d'interprétation de la constitution sud-coréenne. M. Han refuse aussi de nommer les 3 juges manquants au sein de la Cour constitutionnelle qui est censée se prononcer sur le sort du président déchu Yoon. Il n'est officiellement que suspendu de ses fonctions et risque la peine de mort pour rébellion.
Les précisions de Carlotta Morteo, merci beaucoup. Et on part en Belgique pour finir ce journal avec le marché de Noël de Bruxelles, l'un des plus beaux au monde. C'est la chaîne de télévision américaine CNN qui le dit. Elle publie un classement mondial et place Bruxelles aux côtés de Strasbourg ou Berlin. Le marché belge attire plus de visiteurs à cette période que les prestigieux chalets alsaciens en France. Alors comment expliquer un tel succès? Reportage à Bruxelles de Laxmi Lotta.
Il pleut des cordes, il drache comme on dit ici, une météo exécrable et pourtant les touristes sont bien présents au marché de Noël de Bruxelles. Ils apprécient la bonne humeur naturelle qui règne autour des chalets.
Moi j'habite à Paris et les marchés de Noël à Paris ils sont pas pareils. Ici il est énorme, super sympa, une meilleure ambiance, plus de gens, plus de monde.
Vous le voyez, vous le trouvez cool, les gens sont tous sympas. Bien sûr, il est difficile de trouver quelqu'un qui parle anglais et je ne parle pas français, mais je m'amuse.
Le marché de Noël s'appelle les plaisirs d'hiver. Une patinoire en plein air, une grande roue, des chalets à au moins 3 endroits différents de la ville.
Il existe sous cette forme depuis 2001 seulement et vient d'être classé parmi les plus beaux au monde par la chaîne américaine CNN. Les Belges sont d'accord.
Oui, c'est mérité.
Pas exagéré ?
Non.
Effectivement, comme on dit, les Belges sont très accueillants et tout ça, donc ça aide vachement à l'ambiance.
Oui, c'est une fierté, hein, une fierté belge.
L'an dernier, le marché de Bruxelles a en effet compté plus de visiteurs que celui de Strasbourg, par exemple. 4 millions de personnes dans la capitale belge, 3,3 millions pour le français, qui existe pourtant depuis 1570. La Belgique compte bien profiter de cette distinction venue des États-Unis. Lex Milota, Bruxelles, RFI.
Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous, l'actualité continue, notamment avec le journal des sports. Un journal présenté par Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vous nous emmenez en mer ce 24 décembre au large du Cap Horn.
Pour vous donner des nouvelles des marins du Vendée Globe, bien sûr la course de voile la plus prestigieuse au monde. Les premiers concurrents ont franchi cette nuit le mythique Cap Horn, donc à l'extrême sud de la pointe sud-américaine. Ils sont lancés depuis dans la remontée de l'océan Atlantique, sans prendre le temps d'ouvrir leur cadeau de Noël, ce sera peut-être pour demain. Ils les ont embarqués à bord. En tout cas, ils le disent. Le Français Johan Richaume est passé en première position peu avant 23h TU, avec quelques minutes d'avance sur son compatriote Charlie Dalin. Un grand accomplissement pour le leader de cette course qui sent que l'arrivée n'est plus si lointaine. Attention, sont trop sympas.
On a fait le Cap Horn, quoi. En tête, un truc de malade. La remontada, quoi. La Louine, j'avais 24 heures de retard. Et là, je passe à quelques minutes d'avance. C'est génial. Trop bien ce tour du monde. Toi, il n'y a plus qu'à rentrer. Encore 3 semaines, 3 bonnes semaines pour remonter, là. C'est une belle bagarre avec Charlie. Jamais facile contre Charlie. Il va être à son avantage, mais on va rien lâcher. Ça, c'est sûr. Oh, je profite du moment, c'est trop beau.
Il a bien raison de profiter. 9 minutes 30, 9 minutes 30 secondes entre les deux hommes pour passer ce Cap Horn. Je vous encourage à aller voir sur les réseaux sociaux les selfies qu'ils ont fait l'un et l'autre. C'est magique. Le record du Vendée Globe pourrait être pulvérisé. Johan Richaume a franchi donc ce Cap Horn avec plus de 3 jours et demi d'avance sur le temps de passage établi en 2016-2017 par le recordman de l'épreuve Armel Lecléache. Un mot de foot en Italie où la 17e journée du Calcio s'est terminée hier soir. Vainqueur de Côme 2-0, l'Inter Milan 3e revient à 3 points de l'Atalanta, le leader, une longueur derrière Naples, mais avec un match en moins.
Et la suite, Olivier, c'est le coup d'œil du jour dans le rétro de l'année 2024.
Avec un focus aujourd'hui, Juliette, sur un des hommes de cette année 2024, le rugbyman Antoine Dupont, qui aura marqué l'année en remportant toutes les compétitions dans lesquelles il était engagé avec son club, le Stade Toulousain. Il a cumulé les trophées nationaux et internationaux, tout en réussissant le pari fou de décrocher la médaille d'or olympique en rugby à 7, une année parfaite, Cédric De Oliveira.
Avant les Jeux, il n'avait pas une grande expérience du rugby à 7, mais Antoine Dupont est un joueur à part qui réussit tout ce qu'il touche et a fait lever les foules du Stade de France.
C'est un ovni, c'est quelqu'un qui est au-dessus.
Super Dupont.
Vous êtes magnifique.
Non, il pourrait être mon fils, mais bon. Vous avez, ben oui, dans son jeu, franchement, il était super.
Avec son aura et son talent, Dupont a donc aidé les sétistes à décrocher le titre olympique en battant notamment les redoutables Fidjiens en finale. Un scénario de rêve alors que quelques mois plus tôt, sa volonté de s'éloigner du 15 de France, dont il est pourtant capitaine, a provoqué beaucoup de scepticisme.
C'était un pari risqué, mais ça en valait tellement la peine que j'ai eu raison, je pense, de suivre mon intuition, même quand au début, personne n'y croyait vraiment. Je suis fier des choix que j'ai fait aussi.
Laissé à disposition de cette équipe de France olympique, Dupont n'a donc pas disputé le tournoi des Six Nations avec les Bleus, mais il aura été là dans les moments importants de la saison du Stade Toulousain, étant homme du match de la finale du Top 14 et de la Champions Cup. Bref, à 7 comme à 15, il a tout raflé.
J'ai gagné les trophées individuels et collectifs de chaque compétition. J'ai eu la chance d'être dans des équipes qui maîtrisaient complètement leur rugby, donc... Oui, je pense qu'on peut le dire.
Le phénomène boucle donc une saison exceptionnelle et à 28 ans, il ne semble pas rassasié. Même s'il est encore un peu tôt pour l'imaginer disputer les Jeux de Los Angeles, il rêve de décrocher la Coupe du Monde en 2027, le seul titre qui manque à son immense palmarès.
Cédric De Oliveira est place désormais à la conquête du tournoi des Six Nations. Il n'y était pas l'année dernière, il en sera cette année avec les Bleus. Rendez-vous février-mars.
Et on sera là, c'était le Journal des Sports avec Olivier Pron. Merci beaucoup. On poursuit notre tour de l'actualité internationale en Syrie. Ce mardi, plus de 2 semaines après la chute de Bachar el-Assad et la prise du pouvoir par une coalition de rebelles, plusieurs manifestations dans des quartiers chrétiens de Damas ont lieu aujourd'hui. Ils protestent contre l'incendie d'un sapin de Noël près de Hama, dans le centre du pays, incendié par des combattants cagoulés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combattants étaient des étrangers issus du groupe djihadiste Ansar al-Tawhid. Notre invité du jour est Thomas Pierret, chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Vous êtes également spécialiste de la Syrie et auteur du livre « Baas et Islam en Syrie ». Bonjour monsieur.
Bonjour.
Après 50 ans au pouvoir du clan Al-Assad, axé plutôt sur le communautarisme, les liens entre groupes ethniques et religieux doivent être recréés à présent. Alors, est-ce que c'est possible avec le nouveau pouvoir à Damas ?
Écoutez, je pense que c'est possible et que dans l'ensemble, alors si on observe simplement la politique du gouvernement, hein, que je distingue bien des agissements qui peuvent avoir lieu sur le terrain, mais en tout cas l'attitude officielle, le discours et même certaines décisions qui ont été prises au sommet du nouveau régime vont plutôt dans le sens d'un apaisement des relations interconfessionnelles.
Alors, Al-Jolani, justement, vous en parliez, a promis de protéger toutes les minorités, mais que vaut cette promesse aujourd'hui, sachant que, effectivement, on constate des incidents isolés contre les minorités qui se multiplient. Est-ce que concrètement, c'est possible de les protéger ?
Écoutez, possible, ça l'est. C'est-à-dire que le problème réside essentiellement dans un nombre relativement réduit de combattants radicaux, de groupes comme celui que vous avez mentionné, Ansar al-Tawhid, notamment des combattants étrangers, qui sont, alors, il ne faut pas sous-estimer, qui ont joué par exemple un rôle important dans les batailles, notamment autour de Hama, hein, dans les jours qui ont précédé la prise de Damas, qui ne sont toutefois pas extrêmement nombreux. Donc je pense que c'est un problème que le gouvernement devrait sans doute pouvoir gérer sans trop de difficultés, a fortiori une fois qu'il aura, et s'il parvient à réintégrer d'autres groupes armés au nord et au sud, alors qui eux ne posent pas des problèmes, on va dire, de radicalisme idéologique, mais simplement qui conservent un commandement indépendant et qui doivent être réintégrés pour étoffer un peu les effectifs de la nouvelle armée nationale.
Et c'est possible d'envisager une nouvelle législation pour protéger les minorités, une législation de la part de Al-Jolani et de son gouvernement de transition ? C'est une possibilité ?
Écoutez, on ne protège pas des minorités avec une seule loi. C'est à travers toute une série de lois très diverses, y compris par exemple éventuellement des sièges réservés au Parlement, par exemple. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est un incident sécuritaire, donc c'est pas vraiment quelque chose qui requerrait des nouvelles législations, mais plus simplement des décisions. Bon, il faut souligner quand même qu'il y a eu deux réactions de la part du gouvernement depuis cet incident avec le sapin de Noël hier, qui a été d'abord d'envoyer un émissaire du gouvernement, donc un homme de religion musulmane, hein, mais envoyé par le pouvoir, qui a été parlementé avec la population et qui a, durant son intervention, soulevé une espèce de grand crucifix qui se trouvait sur place. Ce qui est bon, symboliquement assez fort. Et puis, de manière plus concrète, aujourd'hui, le gouvernement a décidé que les 25 et 26 décembre seraient dorénavant des jours fériés du fait de la fête de Noël.
On va parler, si vous le voulez bien, de la minorité alaouite, sachant qu'elle était au pouvoir pendant 50 ans avec Al-Assad. À quel avenir faut-il s'attendre pour cette minorité en particulier ?
Ben, je pense que le problème principal, hein, qui peut se jouer autour de cette minorité, réside dans le fait que la région d'origine de cette minorité, donc qui est la montagne côtière de la région côtière, abrite vraisemblablement un nombre important d'anciens membres de l'armée du régime de Bachar el-Assad, qui ont fui au moment de l'effondrement de ce dernier. Et dont je suppose qu'un nombre important se cache, voilà, dans ces régions à majorité alaouite de la côte et du centre de la Syrie. Qu'il y a des opérations qui sont menées par le nouveau pouvoir pour tenter d'en arrêter un certain nombre. Alors, à la fois, dans certains cas, parce qu'ils sont accusés d'avoir commis des crimes contre la population syrienne à l'époque d'Assad, ou parce que certains se livreraient à des activités de type criminel. Et donc, c'est évidemment la présence de ces éléments armés, je pense, qui peut amener à des incidents, à des réactions de la population locale qui s'estimerait harcelée par les forces de sécurité. Et c'est le genre de dynamique négative qu'il faut surveiller.
Et concernant les Druzes, quelle est leur place après la chute de Bachar el-Assad ? Est-ce qu'ils sont liés avec le groupe HTS, le groupe Hayat Tahrir al-Sham, qui a mené donc la coalition rebelle ?
Alors, ils ne sont pas liés. Simplement, il y avait dans la région à majorité druze de Souaïda, donc tout au sud de la Syrie, un mouvement de protestation contre le régime d'Assad qui durait depuis un an et demi. Et donc, il y avait des manifestations toute la semaine contre le régime d'Assad, sachant que c'est une région où il y avait opéré un certain nombre de groupes armés qui avaient obtenu ou imposé aux forces du régime une sorte de quasi-autonomie de la région. Et par conséquent, puisque c'est une région qui avait des relations très tendues avec le pouvoir de Damas, c'est une région où la chute d'Assad a été bien accueillie. Il faut noter aussi que un des premiers visiteurs étrangers qui est venu voir le nouveau maître de la Syrie, Ahmad Eshara, et le chef druze libanais Walid Jumblatt.
Merci. Oui, je vais devoir couper cette interview, Thomas Pierret. Merci beaucoup. Vous étiez notre invité pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Vous êtes également spécialiste de la Syrie et auteur du livre « Baas et Islam en Syrie ». On reste au Proche-Orient, la région qui, comme vous le savez, est au cœur de l'actualité depuis plus d'un an, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023. Et en cette veille de Noël, fête chrétienne, on va donc prendre la direction de Bethléem en Cisjordanie, la ville où, selon la croyance, Jésus serait né. Sur place, l'atmosphère n'est pas vraiment à la fête. La ville est sinistrée, des hôtels sont fermés faute de clients. Il n'y a quasiment aucun pèlerin et la population locale sombre dans la pauvreté. C'est un reportage de Pierre Olivier.
Devant la basilique de la Nativité, quelques pèlerins venus d'Asie, une dizaine tout au plus. Nadim tient une boutique de souvenirs transmise de génération en génération depuis 200 ans.
Cette année, Bethléem est triste. Nous n'avons aucun touriste. Regardez, il n'y a même pas de décoration dans Bethléem. Ça ne ressemble vraiment pas à l'ambiance de Noël.
Conséquence, sur les 80 hôtels que compte la ville, seuls 22 sont ouverts. Elaïs Arja dirige l'établissement Bethléem, presque désert.
La crise a commencé avec le Covid. On a été fermé pendant 2 ans, puis on a ouvert quelques mois seulement. Et depuis maintenant 445 jours et le début de la guerre, on a dû fermer à nouveau, faute de visiteurs. J'ai 400 chambres à $50 la nuit ici. Ça fait plus de 8 millions de pertes.
Une situation catastrophique qui inquiète Majed Israq, adjoint du ministre du Tourisme palestinien.
Par rapport à une année normale, nous n'accueillons que 2% des touristes. Chaque jour, le manque à gagner est $1,5 million de dollars pour la ville de Bethléem avec les hôtels, les restaurants et les souvenirs.
Plus grave encore, des dizaines de milliers d'habitants se retrouvent sans travail.
8000 employés vivaient du tourisme et plus de 10 000 travaillaient en Israël, dans le bâtiment notamment. Mais depuis le 7 octobre, ils n'ont plus le droit de passer la frontière. Aujourd'hui, un tiers des habitants de Bethléem n'a aucun revenu.
Pour percevoir cette pauvreté galopante, direction le marché, à l'autre bout de la ville, où Maï fait ses courses avec ses 3 enfants.
Même les produits essentiels, il y en a beaucoup que je n'achète pas, car nous n'avons plus les moyens. Mon mari ne travaille plus depuis le début de la guerre. Il était employé en Israël.
Alors, à Bethléem, les initiatives se multiplient. Le père Laurent est membre de la communauté apostolique salésienne et responsable d'une boulangerie solidaire.
Au début, la boulangerie a été créée pour les pauvres de la région de Bethléem. On aidait 50 familles. Mais depuis le début de la guerre, on aide entre 120 et 130 familles. Et on donne la moitié de notre pain aux bonnes œuvres. En échange de plusieurs pains par jour, les familles payent un montant symbolique comme 5 euros par mois.
Dans une rue, près de la Nativité, ce chrétien palestinien nous confie son vœu le plus cher pour Noël.
Salam, 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 ou pas salam.
La paix, la paix, la paix et encore la paix. Pierre-Olivier Bethléem, RFI.
Reportage à retrouver sur RFI.fr. C'est la fin de cette édition. J'en profite pour remercier Arnold Asseoua pour la programmation de notre invité. Merci à Joris Zilberman, chef du service international de RFI, ainsi qu'à Anne Kantner à la rédaction en chef. Merci également à Stéphane Desfossé à la technique.
À
Après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, RFI s'associe à la Croix-Rouge française qui lance un appel à dons pour soutenir la population touchée par la catastrophe d'une ampleur immense. Dans l'immédiat, la priorité pour aider les victimes est d'apporter de l'eau, de la nourriture, des produits d'hygiène et du matériel pour construire des abris. Chaque don compte. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Pour aider les volontaires de la Croix-Rouge sur place, faites un don sur croix-rouge.fr.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau Hip-Hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.